Alors, on va évidemment surtout parler de ACAB, c'est quel aujourd'hui, mais j'aimerais commencer peut-être par des questions plus générales pour les gens qui connaîtraient un peu moins le travail de Pierre Sanche. C'est un travail qui est très marqué par les savoirs, hein, c'est un travail qui est nourri par différentes disciplines, par l'histoire, la philosophie, par les textes surtout, et en particulier par les textes littéraires. Déjà, le premier roman, Veuve au maquillage, présentait un personnage qui était commis aux écritures. C'était déjà un signe, hein? Il s'était commis dans les écritures, donc on y était déjà. Et donc, il y a une grande présence des textes, mais en particulier des textes littéraires, je dirais. Puis à partir de là, je poserai pour commencer, pour nous réchauffer un peu, une double question qui relève dans un premier temps du biographique et dans un deuxième temps du poétique. La première question serait... C'est une question, je pense, que les lecteurs aiment toujours. Quels sont les écrivains qui t'ont marqué, qui ont marqué ton propre parcours d'écrivain? Et ensuite, quel est l'intérêt pour toi d'ancrer si souvent ton travail dans les textes ou dans les personnages des autres? Hein? Parce que là, il y a Melville, on en parlera, mais il y a eu Kafka, il y a eu Shakespeare. Lichtenberg, ça fait beaucoup, alors voilà.
Alors, merci encore Julien pour l'invitation. Il est où? Il se cache quelque part. Ah, il est là. Et merci à tout le monde d'être là. Précisément, je suis allé à l'invitation de Richard Guettet, qui est l'instigateur de ce prix de la page 111, qui est un prix vraiment, vous avez compris, loufoque, mais ils le font avec un très grand sérieux qui est impressionnant. C'est-à-dire qu'ils lisent vraiment toutes les pages 111 de chaque livre uniquement, et ils jugent avec des critères complètement obsessionnels, le personnage, le vocabulaire, une espèce de...
C'est très discriminatoire pour les textes courts, par exemple.
Oui, c'est sûr. Oui. Et puis il suffit d'avoir une page blanche. Enfin, bon, c'est vraiment... Mais alors, pour ce prix, le prix est quand même doté d'une certaine façon. On a une photocopie de la page 111. Et on a le droit à une invitation, enfin on peut se présenter quand on veut à Radio Nova, qui est une radio libre de française, qui était au début une des premières radios libres, une des premières radios pirates puis libres en France. Et on a le droit de s'inviter à une émission et puis de parler de livres, de parler de tout ce qu'on veut. Et j'y suis allé il y a quelques jours pour parler un petit peu d'auteurs que j'aime bien, alors ça me permet de répondre à la question. Alors j'ai présenté Sigismund Krasnovsky, Miklós Csenkuti et Giorgio Manganelli et une amie qui a écrit un livre sur les graffitis que j'avais rencontré à Rome. Alors ça me permet de parler de cet auteur hongrois dont je parle tout le temps depuis des années qui s'appelle Miklós Csenkuti, dont j'essaye de faire modestement la propagande. Alors ça marche pas beaucoup parce que ça fait 15 ans que j'en parle et... Alors c'est déjà un nom imprononçable, écrire son nom est impossible et trouver ses livres est encore plus difficile parce qu'il a été publié une première fois dans les années 90 en France par Phébus puis par Corti qui ont laissé tomber pour diverses raisons sa publication. Mais là, vaillamment, une maison d'édition belge qui s'appelle Vie Parallèle vient de reprendre la publication de Miklós Csenkuti, de son grand œuvre qui s'appelle Le Bréviaire de Saint-Orphée en 10 volumes, et ils étalent ça sur 10 ans, donc on aura ça jusqu'en 2024. Voilà. Et c'est un auteur, pour moi, importantissime. Si les hasards de l'histoire n'avaient pas piégé cet homme-là à Budapest, après-guerre, derrière le rideau de fer, je pense qu'il aurait eu une importance, son importance aurait été reconnue au même titre que Joyce, que Proust, que Faulkner, que des gens de cette importance. Et bon, c'est un auteur par ailleurs extrêmement baroque, voilà, c'est comme ça qu'on le décrit en général de façon très rapide, mais de fait, s'il y a un auteur baroque, baroquissime, c'est bien lui, Gada, à côté, c'est presque une écriture claire et consciencieuse et calme. Alors on peut ne pas aimer, je le fais lire à certains amis, puis certains sont très enthousiastes et d'autres sont très dubitatifs parce que c'est un auteur qui est très bavard, qui déborde, mais ses livres ne sont pas vraiment construits, ils écrivent par digression, par association d'idées, par loufoquerie, par diatribe, comme un discours, c'est presque une écriture qui est proche du théâtre. Voilà, pratiquement quelqu'un qui va déclamer sur scène une sorte de discours, qui va prendre différents masques. C'est quelqu'un qui adorait se déguiser. Hein. On a des photos de lui déguisé en cardinal ou en Casanova. Il se déguise comme ça. Et par ailleurs, il a écrit des livres sur Mozart, sur Goethe, sur Haydn, et il appelle ça des autoportraits en masque. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas, très, très, très modeste, mais c'était aussi une façon de combattre l'isolement absolu dans lequel il était, alors qu'il écrivait de façon absolument géniale, mais la plupart du temps pour son tiroir. À cause de ce régime communiste qui l'obligeait à écrire autre chose et à se cacher et à vivre très modestement. Mais il n'a pas voulu quitter Budapest parce qu'il voulait ne pas quitter ni sa langue, ni sa bibliothèque de 25 000 livres dans lesquels il s'était construit une grotte et dans lesquels il vivait.
Oui, d'accord. Et est-ce qu'il va être dans un de tes livres prochainement?
Il est déjà quelque part dans un de mes livres. Je ne dis pas lequel, il est caché sous un autre nom, mais oui.
Alors, on va pouvoir en venir à Cab Sequel. Ça me permet de faire le lien, cette question sur la présence, parce que c'est la deuxième partie de ma question.
Ah oui, je n'ai pas répondu
sur,
à la deuxième partie.
Sur la présence, justement, de ces auteurs, ce dialogue avec des auteurs anciens, contemporains. Enfin.
Déjà, le goût peut-être pour le commentaire et l'autre raison pour laquelle je parasite un peu les livres des autres ou les textes des autres ou les personnages des autres, c'est peut-être tout simplement pour me sentir un peu moins seul. Mais le commentaire, on le trouve déjà dans les œuvres de cet Hongrois dont je parlais, parce que l'un de ses livres, à mon avis, les plus réussis, s'appelle « En marge de Casanova » et c'est un commentaire des mémoires de Casanova. Mais ces livres-là, sous forme de commentaires, il y en a d'autres. Alors parfois, ils sont explicitement sous forme de commentaires, et parfois, ils le sont implicitement, ils le sont sans qu'on y prenne garde, ou même sans que l'auteur lui-même y prenne garde. Mais beaucoup de livres sont des constructions sur d'autres livres. Ne serait-ce que Don Quichotte, par exemple. Et ça pourrait être déjà un immense parasitage des romans de chevalerie. Tristram Shandy aussi, c'est une sorte de jeu sur l'écriture. Manganelli, dont je parlais tout à l'heure à l'instant, a écrit un très beau commentaire de Pinocchio. Il y a aussi ce livre, par exemple, de Nabokov, Feu pâle, que vous connaissez, qui est un commentaire complètement délirant d'un poème. Alors le poème représente la première partie du livre et toute la deuxième partie, c'est un commentaire complètement paranoïaque, paranoïde d'un fou. Sur ce commentaire qui voit uniquement des signes qui lui sont adressés et qui en profite pour raconter sa vie, et c'est un livre extrêmement drôle. Mais je pense que Robert Walser aussi aimait beaucoup le commentaire parce qu'il y voyait aussi une forme de liberté possible. À partir du moment où il y a un texte de départ parasité de façon plus ou moins claire, ou même un thème ou une question ou un sujet, ce thème-là peut servir de colonne vertébrale et du coup la forme est, à tort ou à raison, on se permet des formes beaucoup plus libres parce qu'on se dit que le socle existe déjà, qu'il y a déjà une structure dont la question de la structure se pose un peu moins et on peut se permettre des tas de digressions et le plaisir de l'écriture qui devient, espérons-le, le plaisir de lecture réside là-dedans, dans cette espèce de liberté formelle ou de liberté thématique ou de liberté de l'écriture qui est la liberté de la variation comme la variation musicale. Souvent les thèmes des variations musicales sont très ténus, mais la variation sous forme de fugue ou sous forme de canon est plus intéressante parce qu'elle est le plaisir de la forme même et qu'elle n'a plus à se poser la question du thème ou du sujet ou de la structure.
Ouais.
Je
ne
sais pas si c'est très clair, mais bon.
Oui, ben venons-en à un commentaire, à ce livre qui est un gigantesque commentaire autour du roman de Melville, donc « Acab Sequel ». Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, et quand vous allez sortir d'ici, je suis certain que vous allez vouloir le lire, c'est un roman c'est un roman en somme autour d'Acab. Hein? Moi, je dis que c'est autant Melville a voulu faire un roman sur la baleine, où il fait complètement le tour de la baleine. Ici, on fait le tour d'Acab. On passe du concept baleine au concept Acab. Je dirais qu'on va jusqu'à l'épuisement du personnage d'Acab. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs scènes qui permettent d'aller jusqu'au bout d'une version, d'une vision possible d'Akab. Alors, ça se passe à New York, ça se passe à Broadway, ça se passe à Hollywood, ça se passe sur la mer, ça se passe à Londres. Et Akab remplit toutes sortes de rôles, occupe toutes sortes d'emplois. Alors, je voudrais lire une page pour vous donner une idée peut-être du ton et aussi pour... parce que c'est une page où on sent bien la...
Ce ne sera pas la page 111.
Non, ça ne sera pas la page 111. J'en ai choisi.
Réclame.
Oui. J'en ai choisi une autre, simplement parce que j'ai décidé de ne pas respecter cette contrainte-là et d'en prendre d'autres. C'est un passage où Akab est à New York et il est devenu liftier. Il travaille dans un ascenseur et jour et matin, il est dans l'ascenseur et il trouve finalement que c'est assez agréable par rapport à la vie qu'il avait auparavant. Alors, je vous lis cette petite page. Les navires, le Pequod en premier, sont des bâtiments exagérément penchés. Le capitaine, au temps de sa capitainerie, n'a pas de mal à se sentir épique à bord. L'épopée, à cause de l'inclinaison, à cause du bruit dans les ramures, à cause de l'écume brassée au contact d'un bateau de passage et d'un océan fortuit, l'écume elle-même contingente. Il fallait se baisser, virer de bord, reprendre ses calculs, interroger l'horizon qui ne donne jamais de réponse et admettre l'ici comme une coordonnée imparfaite, traîtresse, ici comme le bâillement du dieu de la localisation. Tant d'inconvénients, sans compter les repas de viande séchée, trois fois par jour la même viande, c'est le prix à payer pour vivre sur le mode épique. Maintenant, Akab dirige son ascenseur, il n'y a plus de traîtresse, plus rien ne penche, c'est une série de parcours rectilignes sans les soucis du vent. Bien sûr, la tranquillité du liftier se paie cette fois d'un manque d'épopée. Tant pis, tant mieux, le vieux capitaine en a suffisamment soupé. Il ne veut plus rien savoir des aventures, si les aventures sont le tangage et le mal de mer contenu dans l'épopée, l'épopée contenue dans le mal de mer. Chaque fois qu'il appuie sur le bouton du 37e étage, Akab, liftier, fait l'éloge de la cabine d'ascenseur, franchise, absence de surprise, bonne ou mauvaise, la monotonie peut-être, mais demandez à Sinbad, secoué par sa 20e tornade, s'il ne préfère pas un peu de monotonie, la moquette monotone, au lieu des gouffres. Dans l'ascenseur, l'allégeance mathématique et mécanique à la ligne droite verticale, celle définie par la chute, on y subit la routine paisible ou plutôt pragmatique, mais on a au moins le plaisir de voir une double porte s'ouvrir sur une scénette à chaque étage. Alors, voici un des rôles joués par Akab dans le roman, celui de liftier. Mais j'ai lu ce passage, entre autres, parce qu'il y a beaucoup question d'épopée. C'est l'épopée dans l'ascenseur. Et ça sera ma première question sur le roman. Est-ce qu'il s'agit d'un roman épique? En fait, ma question, c'est plutôt quel est le rapport à l'épopée dans ce roman? Est-ce que c'est une critique de l'épopée? Est-ce que c'est une déconstruction de l'épopée? Est-ce que c'est une façon de dire que l'épopée n'existe qu'au passé ou une façon de parler de l'épopée aujourd'hui? Parce que Akab, en même temps, il est c'est presque une figure mythologique dans le roman. C'est, autant, je dirais, dans Moby Dick, on associe Moby Dick, la baleine, au Léviathan. Ici, on pourrait associer Akab à Protée, c'est du marin qui se métamorphose tout le temps. On est dans la métamorphose continuelle. Est-ce que ça, en soi, c'est... c'est épique. Alors, quel est le rapport avec Moby Dick, qui est une épopée, une grande épopée américaine?
Protée, je pensais plutôt à Buster Keaton. Mais en fait, je vais peut-être rajouter quelque chose à la réponse précédente qui m'est revenue, évidemment, après coup. C'est que,
oui, c'est les meilleurs.
Je ne sais pas, mais je suis tombé il n'y a pas très longtemps par hasard sur une page d'un Rabelais, Pantagruel. La liste des livres qu'on trouve dans la bibliothèque Saint-Victor, l'un des titres inventés par Rabelais, c'est Des pois au lard, cum commento. Donc des pois au lard avec commentaires. Moi, je trouve que c'est une parfaite définition de ce que j'aime dans la littérature, c'est des pois avec du lard quand même pour donner du goût et du commentaire, comme si le commentaire c'était comme le lard qui donne du goût aux pois. Et voilà.
Et j'ai mangé une recette hier soir de pois chiches avec du boudin aussi qui est pas mal.
C'est exactement ça. Et ça me faisait penser d'ailleurs aux pages de Carlo Emilio Gadda où sur trois ou quatre pages, il décrit des cailles aux pommes de terre, il explique comment Alors c'est vraiment une définition aussi du baroque. Comment le gras de la caille se transmet à la pomme de terre et finalement la pomme de terre devient la caille, une espèce de métamorphose très protéiforme d'ailleurs. Voilà.
Ouais,
c'est une façon de répondre.
Et puis tout ça est beaucoup plus intéressant que la viande séchée sur le pécan.
Exactement, voilà. C'est pour ça que d'un côté l'épopée, oui, c'est peut-être héroïque, mais en fait l'héroïsme peut être assez détestable. Et l'anti-héroïsme à la Buster Keaton m'intéressait plus. Ça m'amusait de comparer alors j'ai fait d'Acab survivant un garçon d'ascenseur pendant quelques temps pour gagner un peu de sous. Et je me suis rendu compte, en faisant ce choix presque par hasard, que finalement le parcours d'un navire qui n'est fait que de louvoiement et de zigzags, de choses pentues et de mers instables. Et c'est pourquoi d'ailleurs Sinbad le marin déteste la mer, et tous les marins de la littérature d'ailleurs, que ce soit Ulysse, Sinbad ou Robinson, en fait finalement détestent l'océan et détestent ça. C'est vraiment à chaque fois un piège. Ils sont en général ravis de revenir à la maison, même si après ils repartent. En tout cas, c'est le cas de Sinbad, qui est une espèce de schizophrène comme ça, qui veut, quand il est sur mer, il veut rentrer à la maison, puis quand il est à la maison, il a toujours une occasion en général financière pour reprendre la voile. Bref, la mer et l'océan est instable et détestable, et il n'est jamais rectiligne. Et là, ce capitaine, ex-capitaine, se trouve une espèce de salut, de sérénité dans la verticalité, dans quelque chose qui est certes monotone et triste et toujours prévisible, mais au moins, voilà, il est dans des pantoufles finalement. Et je trouvais qu'il y avait un effet comique, enfin, moi m'amusais, et ça permettait de donner le ton général du bouquin, du livre, qui est effectivement le passage d'une épopée qui n'est plus possible à un autre monde, qui est plutôt le monde, un monde effectivement à la Buster Keaton, à la Charlie Chaplin, un monde plus ordinaire, presque aussi, même si c'est beaucoup plus ancien, mais un monde comme dans les nouvelles de Gogol, c'est plutôt des petites histoires de petits fonctionnaires, de petites choses qui sont finalement plus comiques que l'énorme épopée melvillienne, même si dans Melville il y a un humour incroyable, mais ça c'est la force de Melville d'arriver à nous faire rire même avec une épopée satanique et maritime. Ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais c'est beaucoup plus facile de faire rire ou d'être dans la dérision et dans le second degré, comme Don Quichotte ne peut être que comique à partir du moment où il est dans le second degré ou dans l'après-coup d'une chevalerie qui n'existe plus. Là, Acab ne peut être que dans la dérision, dans le comique d'un après-coup d'une épopée maritime qui ne peut plus avoir lieu. Et Orson Welles, quand il avait quelques velléités de faire un Don Quichotte, avait parfaitement compris ça, et d'ailleurs il voulait faire un Don Quichotte de la troisième sortie, qui serait encore plus dans l'imitation de lui-même, dans la répétition. Et on sait que chaque répétition est un effet comique. On ne peut plus être dans le sérieux à partir du moment où on est dans la reprise, on est déjà dans la parodie, on est déjà dans ce domaine-là. Il y a une autre raison aussi, c'est qu'à partir du moment où j'ai décidé de prendre ce personnage d'Acab et de lui faire vivre des séquelles, enfin des avatars et des suites, il était nécessaire de refuser la mort que lui donne Melville à la fin du livre. Et si la mort est héroïque, la survie ne peut pas l'être. Elle est forcément grotesque, elle est forcément de l'ordre de la petite victoire, mais un peu misérable, un peu mesquine, parce que s'il refuse la mort héroïque, il est obligé d'accepter une survie un peu lâche, un peu honteuse. D'ailleurs, dans sa survie, il nage, il flotte, mais flotter pour un unijambiste, toujours, il y a quelque chose d'un peu grotesque, oui. Il y a quand même quelque chose du petit bouchon de champagne qui flotte.
C'est une autre séquelle, ça.
C'est une autre séquelle, voilà.
Mais ce qui est particulier, je trouve, c'est qu'effectivement, c'est une suite, mais en amont et en aval à la fois. C'est-à-dire qu'on retourne jusqu'à l'enfance d'Acab, et puis on continue plus loin. Puis en même temps, c'est une histoire parallèle au vrai Moby Dick, puisqu'il y a vraiment, il attaque vraiment la baleine, mais il survit, et puis la baleine aussi, qui en est un peu frustrée d'ailleurs, je crois. Hein. On pourrait peut-être en parler. Mais revenons à Buster Keaton. Les questions de Gogol aussi. Mm. Mais je vais m'arrêter d'abord à Buster Keaton. à qui on pense pour jouer le rôle d'Akab, d'ailleurs, dans le, ce qui, à mon avis, aurait été un moins pire miscasting que Gregory Peck dans le film de John Huston, qui, à mon avis, vraiment pas réussi. Mais j'en viens à la question de l'image du cinéma, justement, qui est omniprésent dans ce roman, beaucoup plus que dans tes autres. Enfin, je crois que c'est la première fois qu'il est autant question de cinéma, si je ne me trompe pas.
Il y a eu un petit bouquin qui est un peu à part, mais qui est plus un livre de Nicolas de Crécy que de moi, d'ailleurs, mm-hmm. où il était question beaucoup de cinéma et d'échecs aussi, d'ailleurs. C'est déjà un thème récurrent.
Mais alors, Melville, c'est un grand lecteur de Shakespeare. Évidemment, Moby Dick, c'est un roman assez shakespearien. Mais il y a une grande théâtralisation dans le roman, parce que Akab lui-même, d'ailleurs, va devenir un comédien shakespearien à Londres. Mm-hmm. Il va jouer, d'ailleurs, il veut jouer tous les grands rôles du moment qu'il y a des morts. Hein. C'est ce qu'il dit à un moment donné. S'il y a un mort dans une pièce, je veux jouer dans cette pièce. Et puis après, ben, il va essayer de faire jouer Moby Dick à Broadway avec un succès assez limité parce que ça coûte très cher faire un spectacle pareil à Broadway. Alors, dès que ça commence à être intéressant, on trouve que ça coûte trop cher, on diminue tout jusqu'au moment où, dans une des versions possibles du spectacle, quelqu'un propose de remplacer Moby Dick par un poisson rouge, en précisant que c'est un poisson rouge exotique, par exemple. Bon. Alors, ça va très très mal. Et après, ça se passe à Hollywood, où là aussi, ça va aller très, très mal. Et puis, à peu près tout le monde va essayer. Réalisateurs, scénaristes, comédiens vont être appelés à essayer de faire quelque chose avec un sujet pareil, sans beaucoup de succès, dont Buster Keaton, dont Fitzgerald, qui on va demander d'écrire le scénario, dont Orson Welles, qui va passer, si je me souviens bien, de scénariste à réalisateur à potentiel comédien pour jouer à Cab, et puis ensuite on va lui proposer de jouer Moby Dick, toujours sans succès. Donc il y a des
échecs. Il est vexé.
Il est vexé.
Il aurait dû accepter, je pense.
Je pense que ça aurait été ça aurait été un très très bon rôle. Oui, c'est ça. Mais enfin, ma question, c'est pourquoi Hollywood, est-ce que Moby Dick appelle l'image ou appelle, c'est parce que c'est le roman ou la bête elle-même, le gros poisson, appelle la théâtralisation, le spectacle, parce que il y a presque du slapstick aussi dans certaines versions possibles hollywoodiennes de
oui, il y a des Cary Grant aussi en Akab. Je ne sais pas si c'est l'image, mais c'est plutôt Hollywood en tant que machine à raconter des histoires. À partir du moment où j'ai traîné ce livre sur des années, donc le point de départ a été n'était pas forcément...
Ah, je croyais que c'était écrit en 2 semaines.
Oui, j'aurais pu... j'ai beaucoup coupé, en fait. Hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire donc j'ai mis très longtemps à l'écrire. Donc le point de départ était tourné déjà vaguement autour de Moby Dick et d'Akab, mais n'était pas forcément celui auquel j'ai abouti. Mais petit à petit est venue l'idée de tirer la ficelle, si j'ose dire, de ce capitaine et de me dire que si je lui faisais... Enfin, si je le faisais survivre à sa propre mort, et donc si je le faisais vivre dans la répétition de lui-même, ce serait intéressant de voir comment l'histoire elle-même se répète, voir aussi d'où elle vient, d'où elle a pu provenir, quelle était son origine, et comment elle survit, comment elle se répète, comment elle bégaye, et comment d'avatar en avatar elle est reproduite, un petit peu comme un mythe peut se répéter, ou un peu comme... des remakes peuvent être faits sur un personnage quelconque ou sur un thème quelconque, plusieurs versions peuvent être écrites, plusieurs fables, plusieurs versions de la même fable, plusieurs versions du même roman policier, ou plusieurs versions du même scénario, ou plusieurs versions de la même blague, ou plusieurs versions de la même locution. Ça m'intéressait beaucoup de suivre un peu l'évolution du même histoire, comme on peut avoir par exemple le mythe de Pygmalion qui devient au bout d'un moment une étoile aînée, une chose comme ça, voilà, de répétition à, My Fair Lady, de répétition en répétition, comment un mythe devient une pièce de théâtre, puis une comédie musicale, puis un film d'après la comédie musicale. Donc inévitablement j'ai reconduit ce capitaine Akab survivant à lui-même. En décalant l'histoire dans le temps, je l'ai conduit à Broadway, qui est déjà, dans les années 20-30, une énorme machine à raconter des histoires. et puis avec des personnages plutôt sympathiques qu'on aime bien, Cole Porter et compagnie. Puis après, de l'autre côté, dans cette autre machine à raconter des histoires qui est Hollywood. Et comme je voulais faire un livre fait de répétition, et de suite, il fallait à chaque fois que ces variations, que ces reprises se terminent par un échec, parce que sinon le livre s'arrêtait d'une certaine façon. Ouais. Donc il fallait jouer sur la répétition et sur l'échec. Et je me disais aussi que ça allait bien avec cet esprit un peu Buster Keaton qui survit de chute en chute, ou à la de Charlie Chaplin qui est aussi le personnage d'un laissé pour compte ou d'un perdant au départ et qui à chaque fois se remet de ses propres chutes ou de ses propres échecs. Par ailleurs, on sait que, bon, c'est peut-être moins connu pour Broadway, mais c'est très documenté pour Hollywood. On sait que Hollywood est aussi une énorme machine à trahir, à perdre, à mettre des gens de côté. Et on sait, bon, dans les personnages qui apparaissent dans ce livre, on sait comment Stroheim, Sternberg ou Orson Welles, à sa façon, ou Fitzgerald, ont été aussi d'énormes perdants, même s'ils ont créé en perdant des choses magnifiques, mais ce sont aussi des choses à qui on a retiré des projets, qu'on a trahi. Et dans cette production qui peut être magnifique, parce que Hollywood a aussi été très capable de, malgré tous ses défauts, de prendre sur soi, puis d'essayer de quand même de faire appel à des gens comme Sternberg ou comme Stroheim avant de les briser. Il y a quand même cet amour du récit, cette espèce de recherche obsessionnelle de la narration qui est admirable d'une certaine façon. Alors, ouais. ça se traduit aussi par des trahisons, que j'essaie de mettre en scène dans ce livre, par des scénarios qui sont, ou des idées qui sont prises à ces génies-là ou à scénaristes intéressants, et puis qui sont d'avatar en avatar et de recopie en recopie et d'atelier de scénario en atelier de scénario qui ne ressemble plus au point de départ. Mais c'est aussi l'effet pervers de cet amour de la narration associé aussi à un énorme besoin d'argent et de financement. C'est ce mélange du diable et du bon Dieu, quoi, en fait, de la positivité et de la négativité d'Hollywood. Je trouvais ça intéressant. Ouais. C'est ce que décrit très très bien Pierre Berthomieux dans ses trois tomes énormes sur Hollywood. Il décrit ça absolument sans jugement de valeur et sans avoir ni un jugement négatif sur Hollywood qui serait une légende noire à broyer des génies et à fabriquer des œuvres lamentables, ni une légende dorée de la machine à rêve qui met Shakespeare en scène. Mais il explique comment cette schizophrénie est le cœur même d'Hollywood, comment le cinéma d'Hollywood ne se comprend que comme ça, que comme un mélange à la fois d'absolue rapacité, d'absolue vulgarité de certains producteurs, mais aussi de force très étonnante d'accepter et d'être fasciné par l'art total de Wagner, par Max Reinhardt, par Shakespeare, par Dickens, et de se chercher une légitimité à travers la haute culture.
Oui. Ben, d'ailleurs, je vais juste lire quelques lignes, mais un des premiers passages de Acab à Hollywood, ce n'est pas à la page 111, c'est plutôt à la page 284. Acab à Hollywood, prophétie mauvaise augure, qui commence ainsi. On pourra décrire l'échec du capitaine à Hollywood d'après les échecs des autres, de prodigieuses déchéances qui ont fait l'histoire du pays, et d'après ces milliers de films non aboutis dont on a recueilli le récit en marge sur la rive, des histoires de réalisateurs virés entre la prise 1 et la prise 2, histoires de stars du muet confrontés à un microphone, histoires de producteurs changeant d'avis, perdant la foi ou perdant le goût, histoires de vedettes mortes au premier jour du tournage, le cœur dans un flacon d'alcool, etc., etc. Et je me disais, ce qui est un des trucs que je trouve intéressant dans ce roman, c'est que ça renvoie à Moby Dick, qui se termine par un désastre. Or, ici, le désastre est évité. On peut dire d'une certaine façon que le roman de Melville, ici, se termine bien, c'est-à-dire personne ne meurt. Mais ça met davantage en lumière les autres désastres, justement, celui d'Orson Welles, de Von Stroheim, de Fitzgerald, comme tu parles, etc. etc. Et c'est d'une certaine façon un roman sur le désastre aussi.
Oui, c'était pas prévu, d'ailleurs. Je me suis rendu compte, au bout d'un moment, que les... les personnages convoqués dont je parlais tout à l'heure, que ce soit Stroheim, Sternberg ou Wells, alors beaucoup moins Billy Wilder, qui lui est plutôt quelqu'un qui a très bien réussi à se faufiler ouais. là-dedans, puis qui a une fin heureuse de grand patriarche du cinéma avec des chefs-d'œuvre à la clé. Mais ces trois-là, plus Fitzgerald, je me suis rendu compte après coup que c'était chacun à sa façon et chacun des manières vraiment très différentes. Des gens qui se sont cognés le nez et qui ont été écrasés ou qui ont sombré dans l'alcool ou qui ont échoué, mais de façon magnifique. Alors c'était pas prévu, ce qui était plus conscient en tout cas pour Sternberg et Stroheim et Wells, c'est de choisir des personnages qui, d'une certaine façon, comme le capitaine Ahab dans ce livre, qui sort d'une certaine façon du récit pour devenir un personnage vivant, sont des personnages qui se mettent en scène eux-mêmes, dont il est très difficile de faire la différence entre la réalité et la fiction, entre la mise en scène de soi et un soi authentique, entre le soi comédien et le soi de la vie de tous les jours. On sait très bien que Stroheim, par exemple, a passé sa vie à se mettre en scène, exactement comme Sternberg, voire à s'inventer une biographie, à s'inventer des origines, à s'inventer une noblesse, à rajouter un fun à son nom pour cacher une origine de petit
juif. Un nom long comme ça, d'ailleurs.
Et avec des noms, il se rajoutait un nom tous les ans. Wells aussi, on sait très bien comment il a mis en scène sa propre légende et comment... cette façon de se déguiser est à la fois très magnifique et peut avoir aussi un côté pathétique. Ce sont des gens aussi, enfin, on sait très bien que Wells a pu aussi se mettre en scène à la télévision, à mettre en scène une caricature de lui-même qui pouvait être presque pitoyable, mais qui est aussi grandiose. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de voir comment ces personnages-là s'invitaient d'eux-mêmes dans le livre en tant que... compositeurs de leur propre légende et narrateurs de leur propre légende ou metteurs en scène de leur propre physique, un peu comme Buffalo Bill qui a passé la moitié de sa vie à rejouer sur scène les guerres indiennes qu'il avait jouées quand il était, qu'il avait vraiment vécu quand il était plus jeune. Et si bien que quand, quelques années plus tard, on l'a rappelé parce qu'il y avait d'autres Indiens massacrés, il a repris du service, mais il était déguisé, il est obligé de garder son costume de scène. Donc avec ces trucs à franges un peu ridicules, un peu comme Elvis Presley quand il était vieux. Quoi.
Voilà, mais il n'était même pas encore vieux, c'est ça le pire.
Oui, c'est ça,
il avait seulement 33 ans quand il est revenu.
Il était gros. Quoi,
oui, oui, c'est ça. Il était pas vieux, mais il était gros.
C'est pour ça aussi qu'à Munchausen, qui est aussi un personnage très étrange, oui, réel, qui raconte aussi, qui se met en scène lui-même et dont l'histoire lui échappe parce que d'autres plagient ses récits et en font un personnage de légende de son vivant.
Oui, c'est ça. Alors, on voit dans le roman, perpétuellement, il n'y a pas de frontière entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire des individus réels et puis des personnages fictionnels, en fait, finalement, ils sont mis sur le même plan. C'est assez intéressant. Je poserais peut-être une question maintenant sur la structure du roman, en fait, la façon dont tu as travaillé. D'abord, il y a beaucoup de listes. Moi, j'adore les listes. C'est mon côté très perequin. Des très, très bonnes listes. J'aime bien ça. Il y a aussi une longue table des matières de 29 pages qui présente les 254 fragments, si j'ai bien compté. Je les ai comptés, je pense que je les ai bien comptés. Et chaque fragment, dans la table des matières, sous le titre de chaque fragment, on a un petit résumé qui est assez intéressant parce que, là, je reviens à Buster Keaton comme exemple, ça aussi c'est très perequin, je trouve. Des fois, les résumés dans la tête des matières nous apprennent des choses qui sont simplement implicites dans le texte. Donc, je me souviens, entre autres, d'un fragment où, en lisant, je me suis dit, tiens, on dirait bien que c'est Buster Keaton, et dans la tête des matières, c'est écrit où on voit Buster Keaton, et etc., etc. Alors, est-ce que la table des matières est une sorte, se présente comme une sorte de résumé du roman, le roman en accéléré? Et puis, il y a un côté aussi très, je dirais, qui rappelle le roman d'aventure. Je pense à Jules Verne, par exemple, les romans de Jules Verne, où sous chaque titre il y a des résumés de ce qu'on va lire. Alors, comment tu as joué avec cette table des matières? Quel était le but, le rôle un peu de cette table des matières?
C'était juste pour le plaisir, vraiment. Juste pour le plaisir de rajouter quelque chose d'inutile, de rajouter 26 pages.
29!
Non, c'est absolument gratuit, mais je me suis dit... voilà, si finalement peut-être que la gratuité c'est un peu comme la crème dans le gâteau, c'est ce qu'il y a de meilleur, je sais pas, c'est... je serais pas, alors peut-être que c'est un commentaire du livre, donc on est encore dans le commentaire, on est dans la répétition, on est dans la variation, et effectivement peut-être dans un jeu de résumé, comme si à la fin du livre il y a une espèce de récapitulation en accéléré, et avec quelques petites variations. Mais au départ, c'est vraiment presque un plaisir de lecteur naïf qui aime ce genre de jeu, comme j'avais fait un index dans un fragment de Lichtenberg. Mm-hmm. Donc là, c'était compliqué parce que, au bout d'un moment, le livre est trop épais et il coûte trop cher. Mais
volumineux.
Volumineux.
Oui, pas épais.
Pas épais. Mais oui, d'accord, volumineux. Et. Mais voilà, c'est pareil, un index est absolument inutile, et c'est un luxe que Gallimard m'avait offert, et j'étais très content de cet index, qui sert absolument à rien, avec des noms, j'ai dû rajouter dans le texte des noms uniquement pour les avoir dans l'index, parce que je trouvais qu'il manquait. Donc voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien les petites notes en bas de page, des choses comme ça, pour divertir. Je me dis, si le lecteur s'ennuie, au moins il aura des petits divertissements, comme des petits spectacles intermédiaires, des cheerleaders.
Il s'ennuie pas, mais ça ajoute. Une dernière question peut-être sur la structure, c'est la question des fragments, parce que les fragments sont là depuis Vavo Maquillage. En fait, tu travailles beaucoup avec le fragment. Comment tu travailles les fragments? Est-ce que c'est... comme ça, les uns après les autres? Est-ce qu'il y a un code? Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce que je me souviens d'avoir lu à un moment donné une entrevue de Régis Joffré à propos de Univers, hein, qui est un gros roman de 600 pages qui raconte l'histoire d'une femme qui met un rôti d'agneau au four. Et ça dure 600 pages parce qu'en mettant son rôti d'agneau au four, elle se met à se raconter des histoires, et dans ces histoires, il y a des histoires. Puis bon. Et je m'étais toujours demandé comment il avait construit le roman. Et puis, une fois en entrevue, il a dit « Ben, j'écris pour au bout de 500 pages. » Je me suis dit « Ben, c'est assez. » Puis, il a arrêté comme ça. Je trouvais ça un peu triste parce que je m'attendais à quelque chose de plus complexe dans la structure. Mais bon, pourquoi pas. Mais je me demandais de la même façon, en ce qui concerne tes fragments, s'ils ont été faits comme ça, de façon linéaire.
Je vais essayer d'être plus complexe.
Oui, je mets de la pression un peu, là, mais...
C'est très compliqué. Ben, ça m'a demandé des années. Non, je... comment dire?
Pourquoi 254 fragments? Pourquoi?
Ah ça, je ne les ai pas comptés. Franchement,
non, ça, c'est les exagérés. Ouais, ouais. C'est moi.
Alors, comment dire? C'est-à-dire que pour écrire ce livre, j'ai mis des années, encore une fois, et le point de départ n'est pas du tout le point d'arrivée. J'ai juste une vague idée. Au départ, mon idée, c'était de faire un récit... Le récit du combat de Akab contre la baleine, mais du point de vue de la baleine, comme une sorte d'honnêteté, comme ça, pour avoir le point de vue de l'adversaire, et en imaginant écrire beaucoup plus de pages du point de vue de la baleine, d'ailleurs, des pages que j'ai écrites, mais que je n'ai pas forcément gardées. Parce que du coup, pendant des années et des années, j'accumule énormément de brouillons, sans savoir exactement où aller, en essayant de suivre toutes les pistes possibles. Ma contrainte était une absence de contrainte. Je ne m'interdisais aucune digression, aucune piste, pour voir jusqu'où ça me menait. Donc j'ai suivi énormément de fausses pistes, mais qui me menaient à d'autres fausses pistes, qui me menaient finalement à quelque chose qui était un peu plus intéressant pour moi. Donc je suivais cette dernière piste qui était moins mauvaise et qui petit à petit dictait la forme ou le sujet du livre. Et c'est pour ça que le personnage d'Akab, qui était complètement absent au départ de mon projet de départ, ou presque absent, il devait être seulement une silhouette un peu lointaine, a pris un peu le devant et s'est assoupli, est devenu un personnage plus souple, plus facile d'utilisation pour moi. Et au contraire, Moby Dick, pour lequel j'ai écrit beaucoup de pages, me semblait pas très intéressante. Donc j'accumule beaucoup de matière et au bout de quelques années, je les rassemble et j'essaye de voir où tout ça m'a mené. Et à partir de ce moment-là, je recopie, je taille, je réagence. Et en taillant, en réagençant, les choses écrites qui sont plutôt volumineuses prennent petit à petit une forme de fragments qui sont montés un peu comme des scènes de cinéma, finalement, comme des rushs de cinéma. Là, j'ai 250 heures filmées et je dois faire un film d'une heure et demie. Et voilà, donc je mets une petite scène avant, après, j'interpose, je rajoute... Je fais un petit interlude, un petit ballet, une scène de groupe, une scène intime. Voilà, j'essaye D'où cet aspect à la fin un peu composé, parce que je ne peux pas, avec cette façon d'écrire, je ne peux pas obtenir un livre linéaire qui serait écrit du début jusqu'à la fin, parce que de toute façon, il n'est pas écrit dans l'ordre, et l'ordre est défini un petit peu quand j'en suis, disons, aux deux tiers de l'écriture. Là, je commence un peu à avoir une vague idée de là où le livre m'a mené, et de ce que je vais pouvoir garder, de ce que je vais devoir jeter.
Ben, on voit moins Moby Dick que ce que tu prévoyais au départ, mais ce sera ma dernière question. Est-ce que c'est une victoire de Moby Dick sur Acab, celui-là?
Je voulais au départ, oui, que ce soit ça. Après, je ne sais pas si c'est exactement... En fait, la fin est suspendue, parce que comme c'est comme dans tous les récits de vengeance, pour avoir une suite, il faut que la vengeance puisse s'ouvrir sur une autre vengeance, et ainsi de suite. Donc voilà, je prévois le...
Les séquelles vont devenir un sequel.
C'est ça.
Ben, merci beaucoup. Alors, merci peut-être qu'il y a des questions à la balle.
Tu veux applaudir, hein.